Donc, merci beaucoup à Patricia Lambert, à l'ENS, au laboratoire d'éducation et au laboratoire ICAR pour l'invitation. Comme Patricia vient de dire, ça fait longtemps que j'attends ce moment en tout cas. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'espère que je vais être à la hauteur de l'occasion de ce premier déroulement en mode normal depuis un petit temps. On m'avait prévenu également de ce public large que Patricia vient d'évoquer. J'espère sincèrement que j'ai bien dosé pour le public. Et j'espère surtout que je vais pouvoir tenir le timing parce que c'est vraiment pas mon point fort. Mais on verra bien. En même temps, avec l'appel de l'apéro derrière, ça risque d'être plus facile. Alors, pour être sûr de bien doser mes propos, je vais commencer par quelque chose qui n'est vraiment pas au centre de ce que je vais dire par la suite, mais qui est quelque chose d'actualité dans le monde universitaire, en tout cas pour les gens qui sont directement concernés. Donc, pour faire très simple, vous avez peut-être entendu parler, vous êtes peut-être directement concerné par un nouvel arrêté du gouvernement de 2020 qui prend effet cette année, qui veut dire, donc encore une fois, pour faire simple, que chaque étudiant ou étudiante inscrite en licence, licence professionnelle ou DUT, doit, à partir de cette année, faire un passage obligatoire par une certification en langue anglaise. Alors, c'est une question polémique, pour des raisons tout à fait légitimes, à mon sens. Cette décision et sa mise en place ont été l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions et de questions. Je ne vais pas du tout proposer un commentaire détaillé ici, il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour faire ça, mais je l'évoque maintenant, car ça va venir refléter plusieurs phénomènes que je vais évoquer au cours de mon intervention ce soir. Alors, d'une part, ça montre bien la place importante de l'anglais dans le système éducatif en France, donc supérieur dans ce cas-là. Ça montre la place centrale accordée à l'évaluation de la langue anglaise. Et si on regarde un petit peu les éléments à l'intérieur du texte de l'arrêté, on commence à voir quelques éléments qui justifient en quelque sorte donc, cette obligation de certification. Donc, notamment des éléments qui font appel au monde professionnel, qui est sous-entendu ici dans le monde socio-économique, et un appel à l'international. Donc, pour moi, c'est un exemple de la place prépondérante, peut-être de plus en plus prépondérante, peut-être trop prépondérante pour certaines personnes, de l'anglais aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation, dans le monde économique ou au-delà. Alors, je vais m'intéresser à la France, mais les mêmes types de phénomènes existent bien entendu ailleurs. Alors, on entend souvent, en tout cas en tant que linguiste, sociolinguiste, on entend souvent que l'anglais c'est la langue la plus parlée, la plus enseignée, peut-être même la langue la plus étudiée par des linguistes partout dans le monde. C'est très très difficile de prouver ou démentir ces arguments parce que c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts. Mais ce type d'idée n'est clairement pas basé entièrement sur un mythe. Okay, c'est clairement basé sur quelque chose qui est une forme de réalité pour beaucoup de personnes. Et j'imagine la grande majorité de personnes dans la salle où l'anglais occupe une place importante dans nos vies à plusieurs niveaux. Alors, je prends quelques exemples très, très basiques. Donc, quand on va voyager, que ce soit pour le plaisir ou professionnel, il y a de fortes chances qu'on va être amené à parler anglais. Quand on va travailler, je pense notamment à tout ce qui est un travail international, mais de plus en plus de métiers, on va se retrouver dans une situation où on va parler anglais. Même si on fait quelque chose de plus personnel, j'imagine que si je vous demande maintenant de penser à votre film ou à votre série télévisée préférée, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose d'anglophone à la base. Et j'imagine qu'avec l'effet Netflix, il y a de fortes chances que vous le regardez maintenant en VO, quelque chose qui est de plus en plus courant aussi. Je dis ici film, mais je pense qu'on peut probablement appliquer la même chose à la musique également. Alors, si on reste dans la vie personnelle, mais peut-être plus sérieuse pour ces personnes-là, la langue anglaise est aussi souvent donc, la langue qui est utilisée entre des couples et dans les familles qui ne partagent pas forcément tous ou toutes la même langue. Et dans certains cas, l'anglais peut même être une question de vie et de mort. Donc, on pense naturellement à tout ce qui est les contrôleurs aériens, par exemple, ou l'industrie aérienne de manière générale. Ou pour être vraiment d'actualité, ce genre de panneau est de plus en plus courant où on voit donc des personnes dans des situations de détresse qui utilisent l'anglais comme un moyen de communication donc large à l'international. Alors, je vais vous décevoir tout de suite. Donc, je ne pourrai pas prétendre à faire donc état de toute l'histoire de cette position de l'anglais comme langue mondiale. Donc, ce n'est pas mon objectif ici, aujourd'hui. Il y a beaucoup de très très bonnes recherches à ce sujet. Idem, je ne pourrai pas non plus étudier toutes les vastes répercussions sociales ou linguistiques de la position de l'anglais comme langue mondiale. Également, il y a beaucoup de gens qui sont penchés sur cette question-là. Donc, je vais me contenter d'être sélectif. Et je vais donc me focaliser sur la France. Et je vais choisir une facette à l'intérieur de tous ces éléments ici. Et je vais aborder donc la présence de l'anglais en France par le prisme des idéologies linguistiques. En fait, ce que je propose, c'est qu'ensemble, on explore ce que je conçois comme un paradoxe, où on va voir que, donc, en France, on a un ensemble d'idéologies linguistiques qui concernent la langue anglaise, qui le positionne comme une langue de communication internationale qui appartient à tout le monde. Mais on a aussi un ensemble d'idéologies qui conditionnent notamment son enseignement et apprentissage, qui semble positionner l'anglais, ou le vrai anglais, comme quelque chose qui appartient pas à tout le monde, mais à un groupe très très limité de personnes. Donc, je propose d'explorer un peu ces deux dynamiques ensemble, avant de regarder quelques conséquences sociales, linguistiques, sociolinguistiques de ces différentes dynamiques-là. Alors, pour ce faire, je vais rapidement donc, définir ce que j'entends par « idéologie linguistique ». Ensuite, on va donc regarder ces deux dynamiques que je viens d'évoquer, donc l'anglais comme outil de communication internationale plutôt universel, et ensuite les idéologies qui façonnent en quelque sorte l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais, qui le rendent quelque chose donc plutôt exclusif, avant de regarder quelques répercussions. Donc tout d'abord, je vais définir le concept principal que je vais mobiliser, et je vous fais travailler un peu l'anglais en même temps. Donc, je prends ici, alors je vais parler d'idéologie linguistique. Parfois on entend le terme idéologie langagière et c'est donc pour moi interchangeable. Et c'est très très proche pour celles et ceux qui connaissent des termes comme représentation linguistique, attitude linguistique, discours métalinguistique ou épilinguistique, etc., etc. Donc je mets tout ensemble et je vais adopter une définition très très large. Je signale quelques éléments clés de ce qu'il y a sur l'écran ici. Donc, très simplement, les idéologies linguistiques sont un ensemble de croyances ou de sentiments qu'on a sur les langues et ou sur l'utilisation ou la place occupée par des langues au sein de la société, au sein de nos vies. Typiquement, et ça c'est très important, donc typiquement les locuteurs et locutrices vont utiliser ces idéologies-là pour justifier ou rationaliser leurs pratiques langagières. Et les effets qui sont parfois produits par ces mêmes pratiques. Alors, je précise tout de suite que idéologie, même si on l'utilise parfois en français avec une connotation négative, ce n'est pas forcément le cas ici. Okay? On part du principe que tout est idéologique. Je vous donne un exemple vraiment d'actualité parce que ça m'est arrivé hier. Donc, hier, j'ai accueilli dans mon bureau une étudiante qui voulait changer de langue mineure. Donc, elle voulait plutôt basculer vers l'espagnol. Et en fait, l'un des arguments qu'elle a mobilisé pour me dire pourquoi elle voulait apprendre l'espagnol, c'est parce que l'espagnol est une très belle langue. Okay? Donc, très bien, je l'entends très bien. Mais ça, donc, c'est de l'ordre de l'idéologie linguistique. Donc, c'est une croyance ou un sentiment de beauté qu'on a par rapport à cette langue-là, qui, dans ce cas-là, va clairement avoir une influence sur la pratique de cette personne-là, parce qu'elle va suivre des cours de cette langue-là. Et ça permet aussi à cette même personne de justifier ses propres pratiques parce que, bon, elle vient rationaliser ses choix. Alors, les idéologies linguistiques sont élaborées, transmises, articulées, propagées de deux manières différentes, plus ou moins. Donc, ce qu'on pourrait appeler les idéologies top-down ou par le haut. Ce sont des idéologies plutôt entre guillemets officielles qu'on va voir diffusées dans les médias, dans les institutions, dans l'éducation et ainsi de suite. Et il y en a aussi donc une contrepartie, donc les idéologies bottom-up ou par le bas, qui sont des idéologies qui vont venir se manifester dans nos pratiques langagières quotidiennes, donc dans nos comportements linguistiques et sociaux. Alors parfois dans ces pratiques, ces idéologies sont ce qu'on appelle thématisées, donc explicitement mentionnées, comme le cas de l'espagnol qui est une belle langue, ou parfois on ne le dit même pas, ça fait partie juste de nos pratiques. Alors je vais prendre un exemple, je suis désolé, c'est un peu moins positif que l'exemple juste avant. Donc ici vous avez un très bel exemple d'une idéologie donc par le haut, ou donc transmise dans les médias. On a cette idée que les fautes d'orthographe en français dans ce cas-là sont un index ou un symbole d'un manque de politesse, un manque de rigueur, un manque de maturité. C'est pas écrit ici, mais on pourrait continuer avec un manque d'intelligence, un manque de culture, voilà, tout ce que vous voulez. Alors, on entend beaucoup ce type d'idéologie par le haut en France, et ça va forcément donc avoir une influence sur nos pratiques, et on commence aussi à développer donc les idéologies donc par le bas, où on va ajuster nos pratiques afin de, en gros, rentrer dans ces dynamiques idéologiques. Donc peut-être, si on est dans une équipe de recrutement, on va écarter systématiquement des CV avec des fautes d'orthographe. En fait, c'est le sujet de cet article-là. Ou si on veut être recruté, on va peut-être donc vraiment essayer de ne pas faire de fautes. Okay? Et au fur et à mesure, on va peut-être développer aussi la même idée que faire des fautes, ce n'est pas bien parce que ça montre qu'on manque de culture, intelligence, etc. Alors, si on prend en compte ces deux éléments-là, ça veut dire que méthodologiquement parlant, on a un peu un challenge. Parce que on a à la fois ces dynamiques donc par le haut et par le bas qui créent une certaine complexité. Et on a besoin d'étudier ces deux fonctionnements. Alors je m'inscris, comme a été évoqué au début, dans une approche méthodologique ou théorique qu'on peut appeler la sociolinguistique critique et ou sociolinguistique ethnographique ou sociolinguistique ethnographique critique, si vous préférez. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici maintenant, mais je signale donc juste deux éléments très, très importants. De manière très idéaliste, la sociolinguistique ethnographique et critique essaye d'adopter une approche qu'on pourrait appeler holiste ou globale, où on essaye donc d'embrasser la complexité des situations et étudier chaque élément qui fait partie d'une situation sociale. Ce qu'on va faire, c'est donc on va déployer donc différentes méthodes pour étudier ces différentes sources d'informations qu'on va ensuite trianguler pour voir ce que ça nous donne comme point de vue complexe sur la situation. Alors, dans le cadre des idéologies linguistiques, ça veut dire que il faut qu'on étudie les discours officiels. Donc, il faut qu'on étudie ce qui est dans les documents officiels administratifs, ce qui est publié dans la presse, ce qu'on voit dans les archives, par exemple, des discours officiels du passé. On a besoin d'étudier des discours personnels. C'est-à-dire, on va faire des entretiens, on va faire des questionnaires pour essayer de comprendre ce que les personnes ont à dire sur ces sujets. Et on a besoin, bien entendu, d'observer des pratiques langagières elles-mêmes. Donc de voir ou même enregistrer ce que les personnes font dans des contextes sociaux. Alors, ensemble, ça va nous donner une idée des idéologies linguistiques et la manière dont elles vont être propagées, élaborées et développées. Donc ce que je propose de faire, c'est on va explorer donc, ces éléments-là que j'explore dans certaines de mes recherches où je me focalise sur l'anglais, donc la place et l'utilisation et l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais en France. Et je dis en France, mais forcément, on va voir très vite, ça va au-delà de simplement le cas français. Alors, on va commencer avec le plus simple. Donc, un exemple d'une idéologie linguistique particulièrement répandue concernant l'anglais, c'est que l'anglais, c'est la langue, enfin, en très bon français, the langue de communication internationale. Donc, pour faire très très simple, on a une idée que dès qu'on a une situation de communication internationale, peu importe comment on définit ça, l'anglais va être notre première ressource, peut-être même seule ressource, sur lesquelles on peut se reposer pour avoir une communication efficiente, efficace, réussie. Encore une fois, j'utilise des mots qui sont difficiles à définir. Alors, vous n'avez clairement pas besoin de moi pour vous dire qu'il y a énormément d'idéologies par le haut qui propagent cette idée-là. Donc, qui viennent de plein de sources différentes. Je prends juste quelques exemples un peu canoniques. Donc, ici, c'est l'extrait du site web de Education First, donc, qui est une organisation qui propose des formations de langue, des voyages éducationnels et des choses comme ça. Où on voit que, ici, dans cette description, l'anglais est alors nommé la langue officielle et commune à l'international. Je ne sais pas qui l'a nommée officielle, mais on voit bien que c'est à assumer ici. Et on voit bien que on lui accorde une importance cruciale dans beaucoup de secteurs, donc voyage, études, travail, loisirs. Alors, je prends un autre exemple. Donc ça, c'est le site de ETS Global. Donc ça, c'est Education Testing Services. Donc c'est l'entreprise qui fournit des tests TOEIC et TOEFL que certaines universités ont utilisés pour faire les certifications de langue que j'ai mentionnées au début. Donc ici, on voit que encore une fois, l'anglais est présenté comme la langue de communication internationale. Et que, en gros, si on est dans une situation où il faut échanger avec quelqu'un qui parle une autre langue, l'anglais va être l'outil qu'on a en commun. Alors, ce discours est quasi omniprésent dans la société, donc on le voit dans l'éducation. Vous allez dans un manuel d'anglais, vous allez retrouver le même genre de discours. On l'entend dans les médias, on l'entend même dans les administrations. Si vous allez sur la partie formation du site web de Pôle emploi, par exemple, vous allez retrouver le même discours. Et on l'a même entendu dans la bouche d'un ancien ministre de l'Éducation, okay, qui tient des propos très très similaires avec le même genre d'argument. Donc cet ensemble de discours donc, parle haut, ou idéologie parle haut, je vais appeler donc l'idéologie de l'anglais comme lingua franca. Donc, lingua franca, c'est donc une langue véhiculaire, c'est-à-dire une langue qui est utilisée comme une langue de communication entre des groupes de locuteurs qui parlent, locutrices qui parlent des langues différentes. Donc, très simplement, cette idéologie transmet l'idée que si on est dans une situation de communication internationale, l'anglais, c'est la langue qui est nécessaire. Ce qui très très vite finit par, en gros, se traduire par l'anglais est nécessaire, point barre. Parce que si on se situe dans un monde on nous dit en tout cas, qui est de plus en plus globalisé, bah, ça suggère que ces interactions internationales, on va avoir de plus en plus. Et l'anglais est donc juste nécessaire dans la vie tout court. Alors, il y a, je suppose, au moins une ou deux personnes qui sont en train de se dire, bah oui, mais c'est vrai ça, c'est pas une idéologie. Ok, je l'entends bien. Mais ça vaut le coup, à mon sens, juste de préciser ici qu'il s'agit bien d'une idéologie. Donc, même s'il y a une part de la réalité, on va le voir dans une minute, c'est clairement un ensemble de croyances et de sentiments qu'on a par rapport à cette langue dans notre société. Mais effectivement, ce n'est pas sans rapport avec des expériences qu'on pourrait vivre dans la vraie vie. Alors, pour illustrer ça, donc, le côté par le bas de la même chose. Je vais vous donner un exemple d'une situation de communication internationale. Alors ici, on est dans l'office du tourisme de Marseille. Ça remonte un petit peu, c'était l'été de 2014. Donc à cette période, il y avait à peu près 3 000 touristes qui passaient par les portes de l'office du tourisme tous les jours. Et 50% des touristes viennent d'un pays qui n'est pas la France. Donc, je considère qu'on est dans une situation de communication internationale, même si je l'ai pas défini, même si j'ai pas défini ce que j'entends par international, et je compte pas le faire d'ailleurs. Mais on va clairement avoir des situations où on a des locuteurs, locutrices de différentes langues qui vont se rencontrer. Alors ici, vous avez un cas de ce type d'interaction. Donc, vous avez une conseillère de l'Office du tourisme, donc qui est désignée par CF8 ici. Une touriste, donc T1, donc deux personnes dans l'interaction. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire abstraction de toutes les annotations un peu bizarres. Et en fait, je vais vous laisser découvrir ce qui se passe dans cette interaction-là. Ensuite, on va regarder un petit peu dans les détails.
Merci.
Voilà, très bien. Donc en fait, c'est pas un extrait, hein, c'est l'interaction en entier. Donc là, vous avez donc la seule rencontre de la vie donc entre ces deux personnes-là. Alors, je propose de faire donc tour par tour. Donc l'interaction commence en français, ce qui est assez logique parce qu'on a affaire ici à une conseillère francophone qui travaille dans une institution francophone en France et qui ne connaît pas donc son interlocutrice. Ensuite, il y a T1 qui répond en allemand avec une question. Je précise que c'est bien de l'allemand, peut-être Maraca peut confirmer, même si dans la ligne suivante, on peut voir le mot néerlandais en anglais, c'est bien de l'allemand. On peut revenir plus tard sur pourquoi on a le mot néerlandais là-dedans si vous souhaitez. Et du coup, on peut en déduire que T1 probablement est germanophone. Okay, donc on a affaire à une situation entre donc, interaction entre deux locutrices qui ne parlent pas la même langue première. Alors, la réponse de CF8, okay, ici, donc, en gros, cette réponse sert à refuser l'allemand comme langue de communication. Okay? Alors, elle fait plus ou moins explicitement, mais elle le fait en anglais. Okay? Elle ne le fait pas en français. Et en fait, même si ça peut paraître un peu brutal, en fait, ce qu'elle est en train de faire ici, c'est aussi proposer une langue potentiellement commune, c'est-à-dire proposer une autre ressource qui pourrait fonctionner pour la communication. Et d'ailleurs, donc, T1, elle saisit l'occasion et elle répond, elle ratifie, donc confirme ce choix en répondant en anglais à cette interjection de CF8. Et l'interaction continue comme ça. On a donc, on pourrait argumenter ici qu'on a donc l'influence des idéologies par le haut, ok? Parce qu'on a un problème de communication entre des locutrices de deux langues différentes dans une situation internationale, et la langue qui a été choisie pour s'en sortir, c'est l'anglais. Okay? Parce qu'on nous dit tout le temps que dans des situations comme ça, c'est la langue qui va nous servir. Et en fait, ça, ce que j'avais argumenté, c'est que dans des situations comme ça, on voit un genre de circularité idéologique. Donc on voit cette influence des idéologies par le haut que je viens de mentionner. Mais on voit aussi donc, un renforcement des idéologies en pratique, donc par le bas. Donc dans cette situation, il y avait un problème qui a été réglé grâce à l'anglais. Et donc on observe en live, si vous voulez, la génération d'idéologies donc, par le bas. On a testé nos idéologies donc, par le haut, ça a fonctionné, ce qui va venir alimenter et renforcer les dynamiques idéologiques de manière plus générale. Alors, à force, ces idéologies deviennent tellement renforcées qu'elles deviennent partie intégrante de ce que Bourdieu appelle notre habitus, donc nos prédispositions qui influencent nos pratiques. Et peut-être même dans un cas comme ça, c'est quelque chose que Bourdieu aurait appelé une doxa. Donc quelque chose qui ressemble à un fait naturel, quelque chose qui va de soi, qui n'a pas besoin d'être remis en question, c'est juste comme ça. On le voit bien dans l'exemple juste avant, parce que le refus de l'allemand est bien thématisé, donc on entend bien explicitement qu'on ne parle pas allemand ici, mais le choix de l'anglais n'est pas du tout commenté, n'est pas du tout mentionné de manière explicite, c'est totalement non thématisé. Et on voit bien dans l'extrait juste avant, et comme vous pouvez imaginer sans doute avec vos propres expériences, qu'on n'en a pas besoin. Pas besoin de le thématiser, on sait très bien que ça va marcher, ça va de soi, pour reprendre les termes de Bourdieu. Alors, comme je dis, ça représente donc l'idéologie que je vais appeler l'idéologie de l'anglais comme lingua franca. On vient de le voir dans un cadre touristique. Mais en fait, ça, c'était mes recherches de doctorat, donc mes recherches de thèse. Et en fait, dans mes recherches depuis, dans d'autres contextes, on va continuer à voir la même chose. Donc, petite précision, évidemment, c'est possible que cette circularité idéologique ne fonctionne pas. Donc c'est évidemment possible que l'idéologie pourrait être remise en question, que quelqu'un refuse d'utiliser l'anglais, qu'il préfère passer par une autre langue, et ainsi de suite. Et c'est sans doute le cas dans beaucoup de situations. Je précise que dans les différentes études de terrain que j'ai fait, je ne l'ai jamais vu. Mais sans doute ça peut très bien exister. Ce que j'ai vu par contre, c'est beaucoup de situations où on va me dire des choses comme ça, que dans n'importe quelle situation de communication internationale, on va utiliser l'anglais. Donc c'était le cas dans le tourisme. On voit la même chose dans les entreprises transnationales. Donc comme a été dit au début, je travaille à l'Université de Lorraine. Sur le site de Metz, qui se trouve pas très loin de la frontière avec le Luxembourg, où il y a beaucoup de ces entreprises transnationales comme ça, et l'anglais fonctionne comme la langue plus ou moins de tous les jours pour ces personnes-là. Et pour les personnes qui sont concernées par le monde universitaire, bien entendu, on le voit là aussi, okay, que ce soit donc, dans certaines de nos tâches administratives, mais aussi beaucoup des tâches liées à la recherche, donc la publication, les demandes de financement, les appels à projets, des choses comme ça. Okay. Donc, on voit systématiquement donc, revenir cette idée de communication internationale égale anglais. Et je cite que trois exemples particulièrement pertinents ici. Je pourrais sans doute continuer plus loin. Donc, en somme, on a un positionnement idéologique de la langue anglaise comme une langue qui permet à tout le monde de communiquer dans n'importe quel scénario international avec... en arrière-fond, l'idée que ces scénarios sont de plus en plus nombreux dans nos vies. Alors, l'une des répercussions de ces dynamiques idéologiques, c'est ce qu'on pourrait même appeler un changement de conception de ce que c'est la langue anglaise, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ce n'est plus une simple langue, mais plutôt un outil, ou une compétence, ou une habilité, donc un truc qu'il faut acquérir. Alors, c'est une dynamique qui est clairement avant tout professionnelle. Donc, en tant que langue véhiculaire internationale, l'anglais est ou est devenu nécessaire pour le travail dans certains secteurs, là où il y a beaucoup de communication internationale. Et ce côté international est devenu de plus en plus généralisé. Et donc, du coup, on voit de plus en plus de nécessité pour l'anglais sur le marché du travail. Jusqu'à ce que... plus ou moins, pour beaucoup, beaucoup de personnes, l'anglais devient nécessaire pour le travail, point. En gros, c'est quelque chose qu'il faut avoir sur son CV, à tout prix. Je vais nuancer mes propos un petit peu plus tard par rapport à ça. Alors, en fait, ce qu'on observe dans ce cas-là, c'est une dynamique de marchandisation. On a donc l'anglais qui devient une ressource qui a une valeur, donc une valeur relativement importante dans la configuration sociale actuelle. Et qu'on va pouvoir aller, par exemple, troquer contre un emploi. Okay? Et forcément, si on troque contre l'emploi, ben, ça veut dire qu'on troque contre la rémunération, le capital symbolique qui va avec derrière. Donc, ces dynamiques expliquent comment et pourquoi l'anglais est devenu donc, une ressource ou outil quasi obligatoire dans le monde professionnel de nos jours. Alors, en lien avec ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à observer. Avec cette dynamique de marchandisation, on voit des dynamiques d'investissement langagier. Donc, ce que j'entends par ça, donc à la suite d'Alexandre Duchesne et collègues, c'est le fait de consacrer du temps, de l'argent, de l'effort, ou les trois, à l'apprentissage de l'anglais, mais surtout avec un espoir d'avoir un genre de retour sur cet investissement-là. Alors ça, c'est clairement quelque chose qui existe au niveau personnel. Donc, ça n'a pas été dit en introduction, mais en fait, je travaille dans un département de langue étrangère appliquée, okay, où je suis entouré par des étudiants et des étudiantes qui font ça. Okay. Donc, ils décident de consacrer du temps, de l'argent et de l'effort dans l'apprentissage des langues parce qu'ils espèrent avoir un poste, pouvoir voyager et ainsi de suite. Mais c'est aussi quelque chose qu'on observe à beaucoup plus grande échelle parce que l'investissement dans l'enseignement et l'apprentissage donc, de l'anglais, que ce soit dans le public ou le privé, ça constitue une forme d'investissement langagier. Alors, je ne sais pas s'il y a des profs d'anglais dans la salle, donc je précise qu'effectivement, donc, l'investissement, donc, je ne sais pas si on va être d'accord ou pas, mais l'existence ou la forme de cet investissement sont très très discutables. Okay, mais bon, en théorie, c'est présenté comme ça, en tout cas, qu'il y a bien donc, cet investissement. Et il y a, comme on voit dans, je cite à nouveau Luc Châtel, donc cet espoir d'un retour sur l'investissement, donc la compétitivité de la nation française dans ce cas-là. Donc en fait, l'idéologie de l'anglais comme lingua franca mondiale, ça vient justifier et rationaliser donc, ces investissements langagiers pour les individus, mais aussi au niveau donc, à une échelle plus grande. Pour faire très simple, l'anglais se présente comme un outil nécessaire, et il est donc logique et nécessaire de l'apprendre, de l'enseigner, de l'utiliser. Alors... Je vais argumenter quelque chose que je ne crois dont je ne crois pas du tout, d'accord? On pourrait imaginer, on pourrait voir que ces idéologies, en fait, créent un positionnement de la langue anglaise comme une ressource ou une langue universelle. On dirait une ressource ou une langue qui est utilisée par tout le monde, partout dans le monde. Une compétence qui est recherchée, même peut-être attendue, partout dans le monde pour travailler, mais aussi plus généralement. Et même si Derrida nous rappelle que les langues n'appartiennent pas, okay, à des gens, en fait, on a un genre de dynamique universaliste qui semble suggérer que l'anglais appartient à tout le monde. Okay? C'est comme si, en fait, on avait tous le droit, ou toutes et toutes les droits de l'utiliser, de l'apprendre, même peut-être le devoir de l'utiliser et de l'apprendre. Et donc, naturellement, il y a le devoir de fournir l'enseignement de cette langue-là. En fait, c'est comme si, je reviens sur une citation que j'ai déjà utilisée, c'était comme si l'anglais était véritablement la langue des citoyens internationaux qui ont été inventés par cette entreprise ici. Alors, comme je dis, je vais nuancer mes propos un peu plus tard, mais clairement, ce que je présente ici, c'est une partie de l'histoire. Et ces mêmes dynamiques idéologiques ne sont pas un outil magique d'inclusion et cohésion sociale. Mais il y a beaucoup de dynamiques d'exclusion qui sont liées à tout ce que je viens de mentionner. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais que le tableau soit incomplet à ce stade ou pas, cette vision universaliste de l'anglais est présente comme dans les discours comme les discours ici. Et c'est cette vision-là qui est mobilisée, utilisée pour justifier la place importante qui est accordée à l'anglais partout, y compris dans le système éducatif en France. Alors, en revanche, l'anglais qu'on enseigne et qu'on apprend dans ce système éducatif en France n'est pas de tout cet anglais universel qui appartient à tout le monde. Et maintenant, je vais donc basculer vers des questions idéologiques liées à l'enseignement de l'anglais. Je précise que je ne suis absolument pas didacticien ni spécialiste en didactique pédagogique. J'apporte ici un regard que je qualifierais de sociolinguistique sur ces questions-là. Alors, jusqu'à présent, l'idéologie que j'ai appelée donc l'anglais comme lingua franca, c'est une idéologie qui focalise plutôt sur la fonction de l'anglais. Où est-ce qu'on l'utilise, qui l'utilise, à quelle fin, etc. Alors, ces idéologies-là sont très présentes dans le système éducatif et justifient la présence importante de l'anglais dans ce même système. Comme je dis, vous ouvrez un manuel, vous allez retrouver les mêmes discours. Mais si on tourne notre attention vers la forme de l'anglais qui est enseigné et appris en France, on va voir que la vision devient très très rapidement moins universaliste. Donc, sans rentrer dans les détails, l'enseignement et l'apprentissage d'une langue impliquent plus ou moins toujours l'existence et l'utilisation de une ou des variétés de référence qu'on va utiliser comme un modèle pour l'enseignement. Alors, je précise ça simplement pour préciser que, évidemment, le choix de ce modèle et la manière dont c'est utilisé et diffusé, ça, c'est quelque chose d'idéologique. Okay, ça, il y a des dynamiques idéologiques qui sous-tendent le choix et on transmet des idéologies à travers ces choix-là. Alors, pour la suite de mon intervention, je vais aborder quelques aspects idéologiques de l'élaboration et l'utilisation des variétés de référence pour l'anglais en France. Donc, je vais essayer de regarder à la fois de manière par le haut, donc top-down, en regardant les idéologies qui sont diffusées, entre guillemets, par le système d'éducation, donc dans les manuels, dans les maquettes, dans les programmes, et ainsi de suite. Tout en regardant un petit peu les idéologies qui sont produites ou construites dans les pratiques d'enseignement, d'évaluation, dans différents contextes. Alors, toutes ces sources se combinent en fait pour contribuer à créer des variétés de référence et par conséquent dans les aspects idéologiques de l'enseignement, apprentissage, évaluation et usage de l'anglais en France. Je vais très très rapidement aborder trois dynamiques idéologiques qui me semblent clés et que j'ai vu au fur et à mesure de mes travaux. Je rappelle qu'ici, on se focalise sur la forme de l'anglais plutôt sur sa fonction et son utilisation. Alors, petit avertissement ici, parce que ce que je vais dire par la suite, ça crée des réactions très très différentes. Donc, il y a certaines personnes qui sont un peu versées en sociolinguistique, qui me regardent et qui disent « bon, tout ça c'est d'une banalité extrême, je ne sais pas du tout pourquoi on parle de ça ». Et j'ai d'autres personnes, notamment des collègues profs de langue, qui me disent « ah, tu ne peux pas dire ça, il faut arrêter okay ». Donc, je me suis dit, bon, vu qu'on a ce décalage, c'est plutôt intéressant. Et je trouvais ça particulièrement pertinent d'essayer d'aborder ça devant un public a priori assez divers. Alors, la première dynamique idéologique et la plus évidente, c'est, mais souvent aussi la plus polémique, je vais ici donc emprunter l'idée de native speakerism de Adrian Holliday. Donc, chez Holliday, native speakerism, c'est une idéologie qui positionne le locuteur ou la locutrice native comme le meilleur expert et ainsi le meilleur enseignant d'une langue en question. Je vais étendre un petit peu cette définition ici, et donc on va appeler tout simplement idéologie du locuteur natif ou de la locutrice native si vous préférez. Donc c'est une idéologie qui positionne le natif comme seule autorité légitime concernant une langue en question, donc en anglais dans ce cas-là. Et donc par conséquent, qui positionne donc les productions linguistiques d'un natif comme le seul modèle linguistique valable. Alors cette idée, peut-être pas formulée comme ça, est très très présente dans les discours des enseignants, des étudiants, et c'était aussi mon cas jusqu'à relativement récemment. Très très souvent, on a des étudiants qui disent explicitement que leur cible c'est de parler comme un natif. Okay, donc, parler comme un anglais, parler comme un américain, voilà. Et c'est où, si on regarde un peu les bases de nos évaluations en tant qu'enseignant, très très souvent, on a la même chose. Donc en fait, notre barème, c'est axé autour de ce qui est la production imaginaire d'un locuteur natif. Alors vous avez ici donc, ce qui est pour moi une très bonne illustration, avec cet extrait ici. Donc du rapport du jury de l'agrégation externe d'il y a quelques années, où le natif donc est explicitement mentionné en fait n'est pas explicitement mentionné comme une cible ou une base d'évaluation, mais est très très présent de manière implicite. Donc si vous regardez les parties qui sont soulignées, donc en fait vous avez des parallèles qui sont établis. Donc vous avez un lien qui est établi entre le natif et l'authentique. Okay, donc natif et authenticité, et vous avez donc un parallèle qui est établi entre natif et authentique et le fait de s'améliorer en langue. Okay? Donc en gros, vous avez un parallèle établi entre natif, authentique, supérieur. Okay? Donc vous avez ces trois choses qui vont ensemble. Donc pour faire très simple, le seul anglais réel, bon, c'est l'anglais d'un locuteur natif. Alors ça aussi, c'est peut-être toxique dans le sens de Bourdieu, donc ça va de soi, c'est très difficile à remettre en question, et ça vaut la peine donc de souligner qu'il s'agit bien d'une posture idéologique, ça. Okay? Et c'est là où les sociolinguistes dans la salle, ils vont se dire « oui, bah oui, on sait », et c'est là où mes amis enseignants, enseignantes de langue sont plus du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc ce n'est pas un état de fait que le natif, c'est le meilleur modèle. En fait, il y a plusieurs études qui montrent le contraire dans le cadre de l'enseignement. Et il n'y a pas de raison justifiable pour qu'un non-natif soit qualifié d'inauthentique de quoi que ce soit. Alors, d'un point de vue, c'est assez curieux, parce que je vais revenir là-dessus à la fin, parce que l'anglais, c'est la langue véhiculaire peut-être la plus répandue de toute l'histoire de la communication humaine. Et on cite toujours le fait qu'il y a beaucoup plus de non-natifs qu'il y a de natifs. Et en fait, il existe des modèles et des descriptions et des outils pédagogiques qui tiennent compte de tout ça. Donc, on pourrait très bien remettre cette idéologie en question. Mais la vision persiste, en France en tout cas, que le natif égale authentique égale seul modèle possible. Alors, natif évoque une autre question délicate, c'est bah, qui compte comme natif ? Comment est-ce comment définir un natif ? Alors sociologiquement, sociolinguistiquement, c'est très très compliqué. J'aime pas trop avancer ce type d'argument, mais peut-être surtout avec l'anglais, parce que, comme Françoise Lelièvre dit, l'anglais n'est pas une langue comme les autres. Donc l'anglais est une langue polycentrique, donc parler dans plusieurs endroits avec des variétés de références différentes dans ces différents endroits. Et comme toute langue, l'anglais est très hétérogène en termes de variations en dehors des variétés de référence. Donc pour faire très simple, entre les natifs, donc même à l'intérieur des natifs, il y a beaucoup de variations. Alors, si on regarde les exemples que vous avez sur l'écran, on voit bien qu'il y a une prise en compte, donc dans le système éducatif français, il y a une prise en compte évidente, peut-être même une valorisation explicite de cette variation dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc ici, on le voit lors des concours, et en fait, dans les cours, très très souvent, dans les cours notamment de langue orale, la variation de l'anglais, c'est quelque chose qui est positionné comme une question fondamentale pour l'étude de la langue anglaise, et c'est souvent quelque chose qui passionne particulièrement des étudiants. Mais dans ces mêmes concours, quand on passe à une autre épreuve, en fait, on va voir que c'est juxtaposé avec une valorisation, voire une imposition très très marquée de deux modèles ou deux variétés de référence. Donc General American, donc l'anglais américain standard, et Standard British English, parfois qu'on appelle Received Pronunciation, donc l'anglais britannique standard. Alors ici, vous avez un extrait de l'agrégation d'anglais, c'est-à-dire un concours qui va quand même au moins partiellement participer à définir comment l'anglais est appris et parlé et ensuite transmis par des personnes qui passent ce concours. Et on voit bien qu'il y a une valorisation et une prescription pour soit ce standard britannique, soit ce standard américain. C'est pas très étonnant donc de constater que dans la vaste majorité des cours, ben, on va retrouver la même chose. Et on va trouver la même chose dans beaucoup de manuels à tous les niveaux, tous les parcours. D'ailleurs, très souvent, les étudiants, étudiantes, les élèves, les apprenants, même les enseignants, c'est aussi ça qu'ils visent. Ils visent à parler comme un Américain ou parler comme un Anglais. Et on reste dans ces deux variétés de référence ici. Alors ça, c'est ce que Rosina Lipi-Green appelle l'idéologie de langue standard. Donc, une situation où on accorde une valeur symbolique, ou dans ce cas-là académique, supérieure à des variétés codifiées, homogènes, qui servent de variétés de référence explicites de ces langues-là. L'anglais est quelque peu exceptionnel parce qu'il y en a plusieurs, plusieurs variétés de référence, mais en France, on finit quand même avec seulement deux, okay, donc l'anglais britannique ou américain. En fait, on observe ici donc un processus de hiérarchisation qui crée certaines variétés légitimes, ce qui positionne nécessairement toute autre variété comme étant moins légitime, voire totalement illégitime. Donc, on a une situation où la variété légitime qu'il faut apprendre, qu'il faut transmettre, c'est la variété de natif, mais pas n'importe quel natif, okay, un natif de l'une de ces deux variétés-là, dans l'idéal. Et même si d'autres variétés sont acceptées, ce sont clairement ces variétés-là qui sont notre donc, modèle de référence. Et donc implicitement, voire explicitement dans pas mal de cas, ces variétés qui sont désirables, souhaitables, acceptables, etc. Alors, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences à la fois symboliques et concrètes. Je vais y revenir plus tard. Ou parfois très immédiate. Donc, comme vous pouvez voir avec cet extrait-là, donc d'un entretien avec quelqu'un qui faisait partie du jury de l'agrégation, et donc qui a été donc face à une production non standard dans le sens de ces deux variétés ici, qui a eu donc des conséquences directes pour la personne qui passait les concours à ce moment-là. Alors. C'est ici où normalement je commence à avoir un peu peur, parce que le dernier aspect idéologique que je vais aborder, c'est évidemment le moins explicite et c'est celui qui a tendance à créer de la colère chez des gens. Vu que c'est moins explicite, ce qu'on va devoir faire, c'est regarder plutôt ce qui n'est pas là que ce qui est là. Okay? Donc ici sur l'écran, vous avez l'extrait d'un rapport de jury de l'agrégation. Et vous voyez qu'il y a la prise en compte de la variation que je viens de mentionner. Et on a des exemples de modèles phonétiques acceptables qui sont énumérés. Alors, je sais bien qu'il y a le etc. à la fin de la liste. Mais certaines variétés sont explicitement citées, donc américain et britannique, qu'on a déjà mentionné, et irlandais, écossais, australien. Alors, explicitement cité, pour moi, ça veut dire explicitement valorisé, contrairement à ce qui n'est pas là. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on observe ici, c'est la valorisation de variétés qui sont liées à certains endroits. Donc, dans ce cas-là, des pays qui sont conçus comme traditionnellement anglophones et qui se situent dans le nord global, dans le sens global north. Okay, donc, Australie se trouve dans le global north, dans ce cas-là. Et avec cette valorisation-là, on a aussi une valorisation donc, naturelle de certaines populations donc, qui sont liées à ces endroits-là. Et ça ne me semble pas être un saut idéologique énorme de suggérer qu'en dehors de ça, on voit un lien entre ces variétés-là et des populations qui sont conformes aux stéréotypes ethniques et raciaux qui sont liés à ces lieux-là. Si je demande à quelqu'un, par exemple, d'imaginer un habitant de l'un de ces endroits ou un locuteur de l'une de ces variétés-là, il y a de fortes chances qu'il y ait à peu près le même profil ethnique et racial qui va sortir à chaque fois. Donc, j'argumenterai que ce qu'on a ici, donc, c'est une manifestation de ce que Jonathan Roser et Nelson Flores appellent des idéologies raciolinguistiques, c'est-à-dire des rapports ou même des dynamiques de co-naturalisation qui existent entre race et langage, ou plutôt entre processus de racialisation et langage. Alors, Rosa et Flores expliquent très bien que ces rapports sont développés à travers beaucoup de processus et sur le long terme, avec une focalisation sur le colonialisme. Mais ça donne dans une situation où, aujourd'hui, où en gros, race et langage s'entremêlent de manière totalement indissociable. Et même si nous, on sait que les variétés donc standards ou variétés de référence sont parlées par tout type de personnes, il existe quand même ce lien indexical, donc ce lien symbolique, dans l'imaginaire collectif qu'un locuteur de l'un des modèles de référence de la langue anglaise, c'est quelqu'un qui provient d'un pays traditionnellement anglophone, du nord global, qui conforme aux stéréotypes ethniques et raciaux de ces pays-là. En gros, quelqu'un comme moi. Et j'ai déjà eu des réflexions dans ce sens-là, dans différentes situations. Alors, ce lien indexical, il faut que je précise quand même, n'est pas créé uniquement par nos pratiques d'enseignement et d'apprentissage et d'usage d'anglais, ni d'ailleurs que par les documents qui encadrent tous ces phénomènes. Mais j'argumenterai que les idéologies raciolinguistiques traversent et imbibent tout ce système-là. Donc, des exemples comme celui-ci, si on les couple aux autres exemples, comme les programmes de cours, les ressources pédagogiques, ça perpétue et renforce ces idéologies-là. Alors, je nuance mes propos un tout petit peu, parce que récemment, il y a eu quelques changements à ce sujet, donc au niveau de l'agrégation. Donc ici, on voit une prise en compte au moins partielle des variétés qui proviennent de pays en dehors du nord global, même si les variétés ne sont pas explicitement nommées dans ce cas-là, contrairement à l'exemple juste avant. Donc, les trois dynamiques que je viens d'évoquer, en gros, contribuent à l'élaboration symbolique d'un groupe de personnes qui constituent les seuls locuteurs d'un anglais authentique. Donc, ce sont des locuteurs natifs qui parlent une variété standard, qui proviennent d'un pays traditionnellement anglophone du nord global et qui sont conformes aux stéréotypes ethniques et raciaux de ce pays-là. Donc, par conséquent, les variétés qui sont produites par ces locuteurs-là constituent les seules variétés de référence d'un anglais authentique. Autrement dit, les traits linguistiques que ce groupe de personnes vont produire, ça devient le modèle par excellence de la langue anglaise, les traits qu'on va essayer de transmettre dans les cours et contre lesquels on va juger et évaluer toute autre pratique de la langue anglaise. Alors, à ce moment-là, l'anglais clairement appartient à ces personnes-là. Et donc, finalement, ces personnes forment un groupe relativement petit. Sur l'échelle de personnes qui parlent ou qui utilisent l'anglais dans le monde, c'est vraiment très petit. Okay? Ça nous permet d'identifier donc, une dynamique exclusive et donc une forme de paradoxe. On a donc d'un côté des idéologies de l'anglais comme langue véhiculaire, donc lingua franca, basées plutôt sur la fonction et l'usage de l'anglais, qui positionne l'anglais comme un outil qui appartient à tout le monde et qu'on se doit d'apprendre et d'utiliser. De l'autre côté, on a des variétés de cet outil universel qui sont utilisées dans l'enseignement et l'apprentissage qui sont très restrictives. Donc on a des idéologies de forme plutôt qui positionne donc l'anglais comme une langue qui appartient à un tout petit groupe très bien défini. Alors tout ça, ça a forcément donc des répercussions et des conséquences. On va commencer avec le plus évident. Donc il y a des répercussions pour l'enseignement et l'apprentissage. Parce que dans l'éducation, de manière générale, je ne sais pas tout à fait toujours le cas, mais de manière générale, la variété des références, donc de natifs, la variété des références standards, c'est la base de nos évaluations. Et ça, en quelque part, c'est problématique, car ça proscrit beaucoup de traits qui font partie justement de l'anglais utilisé comme un outil universel, comme une langue véhiculaire internationale. Vous avez peut-être remarqué dans certains exemples qu'on a vus qu'il y avait plusieurs mentions de cohérence, de justesse et des choses comme ça. Ça veut dire qu'on proscrit des traces de contact de langue ou de plurilinguisme qui sont inhérentes à n'importe quelle utilisation de l'anglais comme une lingua franca ou langue véhiculaire et dont même moi, je fais preuve. Okay? Même moi, j'ai ces incohérences et ces injustesses dans mes productions en anglais. Alors, logiquement aussi, donc des locuteurs et locutrices sont en moins de contact avec des variétés de références relativement restrictives, qui existent dans des endroits et chez des populations bien particuliers, contrairement à l'anglais utilisé comme lingua franca, qu'on peut trouver plus ou moins n'importe où. Alors, pour faire simple, ce qu'on voit donc, c'est qu'on évalue la capacité à être anglophone sur des variétés de références qui ne tiennent pas vraiment compte de la réalité principale de l'anglais, donc son utilisation comme une langue véhiculaire mondiale. Et ça favorise donc en creux des personnes qu'on pourrait appeler donc privilégiées qui peuvent avoir accès relativement facilement aux populations et aux lieux où on trouve l'anglais authentique. Alors bien entendu, ces répercussions ne sont pas limitées à l'éducation. Donc, si ça a des conséquences également au niveau professionnel. Donc, en grande partie, notre capacité de parler anglais en milieu professionnel, en fait, ça équivaut à avoir une certification ou avoir un diplôme qui prouve qu'on parle anglais. Et en fait, c'est ce diplôme ou cette certification qui est valorisée dans les embauches, dans les recrutements, plutôt que de véritables compétences en anglais qui sont quand même assez difficiles à évaluer dans un entretien d'embauche. Alors, ces certifications et diplômes sont en grande partie évalués et basés sur des variétés de références standards que j'ai mentionnées tout à l'heure. Pas toutes, mais la majorité. Et ça a donc un impact sur l'accès au marché du travail et l'accès à certains emplois. Alors, si on part plutôt dans les conséquences symboliques, c'est peut-être là où les choses sont un peu plus frappantes. Donc, on a ici, à mon sens, une dynamique d'exclusion assez spectaculaire. Donc, on a une conception de l'anglais selon des variétés de références qui excluent un pourcentage gigantesque de anglophones ou d'utilisateurs ou utilisatrices de l'anglais. Si, en gros, on se positionne en dehors de ce cadre normatif, donc de langue standard, on est étranger, on est non authentique, on n'est pas anglophone. Donc, en gros, vous n'êtes pas anglophone, vous ne faites pas partie de ces citoyens internationaux qui reviennent à nouveau sur l'écran ici. Alors, petite parenthèse, j'ai dit que j'allais le faire et donc je le fais. La vision universaliste que j'ai présentée tout à l'heure, c'est pas forcément mieux, c'est quelque chose qui est aussi très exclusif et qui peut être parfois source d'une violence symbolique assez importante. Parce que si vous n'avez pas aujourd'hui de compétences en anglais, si vous n'avez pas accès à l'anglais, vous vous trouvez donc exclu de ce côté universel, justement. Okay, donc, et ça, c'est sans parler de véritable exclusion de situations où l'anglais est concrètement utilisé. Donc, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit même dans les loisirs, vu que l'anglais est de plus en plus présent. Mais on peut revenir sur cette parenthèse lors des discussions. Alors, j'argumente que ces combinaisons de différentes dynamiques ou de conséquences concrètes et symboliques, en fait, génèrent une insécurité linguistique très profonde qui est quasiment généralisée en France. Donc, en fait, on a des idéologies qui positionnent l'anglais comme obligatoire, mais qui rendent légitime seulement une toute petite partie de la panoplie de pratiques qu'on pourrait mettre sous le terme langue anglaise. Et ça délégitime, du coup, toute autre pratique. Et ça donne lieu à des observations comme, donc je refais référence à l'étudiante que j'ai mentionnée au début, qui voulait basculer vers l'espagnol, qui m'a dit, ouais, mais je ne parle pas vraiment anglais. Okay? Bah, n'importe quelle échelle, cette personne parle vraiment anglais. Okay? Peut-être pas sur les modèles qu'on a vus tout à l'heure, mais elle parle anglais. Et comme je dis, en France, on peut avoir l'impression que c'est généralisé. Et je crois que c'est la recherche Google la plus simple que j'ai faite de ma vie pour trouver ces titres de journaux en France où on va très 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 facilement trouver des choses comme ça. Et même si, même quand les choses vont un peu mieux, c'est quand même pas ça. Okay? Donc en fait, c'est un discours qu'on entend tout le temps, les Français sont nuls en langue et surtout en anglais. Donc vous avez un genre d'insécurité linguistique totalement généralisé. Alors, ça, ces exemples-là sont plutôt marrants, mais donc une insécurité linguistique comme ça a des véritables effets psychologiques. Okay? Ça peut entraîner même des effets sur des choix de vie que certaines personnes vont faire. Et donc, par conséquent, ça peut avoir des effets sociaux assez importants. Alors, visiblement, je trouve ça curieux parce que visiblement, ce sont des problèmes qui sont relativement bien connus en France et des problèmes d'insécurité linguistique ont été ont fait l'objet de beaucoup de recherches ailleurs. Donc, pourquoi pas, pourquoi on n'est pas dans une situation où ces problèmes ont été réglés? On pourrait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, adopter un modèle de l'anglais comme lingua franca pour enseigner et apprendre l'anglais en France, mais ce n'est pas le cas. Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais suivre les idées de Monica Heller que j'ai citées tout à l'heure, qui nous rappellent que dans des situations comme ça, il ne faut pas simplement identifier les personnes qui perdent dans l'histoire, mais aussi les personnes qui gagnent dans l'histoire. Donc, on va faire ça. Alors, très clairement, toutes ces dynamiques-là, il y a certains gagnants, il y a les anglophones. Okay? Donc il y a des gens, donc pour le dire très clairement, des gens comme moi qui ont eu la chance, la pure chance, d'être nés dans un environnement où on parle cette langue-là. Et la même chose s'applique aussi à toute personne avec un accès facile à la même langue, et surtout aux variétés des références standards que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les gagnants aussi, parmi les gagnants, on pourrait aussi compter donc toute personne ou tout système qui cherche ou qui souhaite hiérarchiser ou légitimer certaines personnes, délégitimer certaines personnes. Alors, ça concerne certains aspects du système éducatif, ça concerne certains aspects du monde professionnel, et en fait, c'est quelque chose, ces dynamiques idéologiques sont très très puissantes parce que leur apparence donne l'impression que c'est objectif. Donc évidemment, on ne peut pas embaucher cette personne parce qu'elle ne parle pas anglais. Okay? Donc en fait, ces idéologies créent une impression de rationalité, même si le fond est idéologique. Et enfin, on peut aussi citer comme gagnant toute personne ou entreprise qui profite de cette insécurité linguistique généralisée, c'est-à-dire toute entreprise qui prétend pouvoir pallier un déficit linguistique et aider la population avec ça. Je pense notamment à des écoles de langue, je pense à des entreprises de soutien scolaire, je pense à des entreprises de formation professionnelle et je pense bien entendu aux organisations qui proposent des certifications en langue anglaise, surtout quand le gouvernement français est d'accord pour instaurer ça au niveau national et ensuite le sous-traiter au privé, comme ce qui est exactement en train de se passer. Alors, je termine sur quelque chose de très délicat. Je l'ai évoqué un petit peu, mais évidemment, ma position est un peu délicate. Okay? Parce que, vous l'aurez compris, je figure un peu par accident parmi les gagnants. Donc, je suis né et j'ai grandi dans un endroit anglophone où on parle une variété plutôt standard. Je gagne ma vie clairement en partie grâce à ça. Le département dans lequel j'enseigne, comme j'ai dit tout à l'heure, donc langue étrangère appliquée, c'est un département en croissance, le seul département en croissance dans la fac de lettres, là où je travaille, en grande partie grâce à des idéologies que j'ai évoquées ici. Okay? Clairement, nos étudiants et étudiantes viennent chez nous pour faire leur investissement langagier dans l'anglais chez nous. En fait, on marchandise nos formations grâce à ces idéologies-là. Alors, je me retrouve dans une situation encore plus paradoxale parce que je dois enseigner l'anglais dans tout ça. Et donc, je dois faire face au paradoxe des idéologies contradictoires que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, en gros, ça veut dire que depuis 4-5 ans maintenant, je réfléchis beaucoup à comment je peux bien utiliser cette position de pouvoir dans laquelle je me trouve un peu par accident. Et ma solution, c'est d'essayer d'utiliser cette position pour déconstruire ou remettre en question certaines idéologies, parfois explicitement, parfois dans mes pratiques. Alors, je donne juste quelques exemples, mais ce serait vraiment sympa si, parce que j'imagine qu'il y a d'autres enseignants et enseignantes de langue dans la salle, donc peut-être que ça peut fournir le point de départ pour une discussion après. J'essaie, dans la mesure du possible, d'éviter certains discours très répandus, dont certains que j'ai évoqués ici. J'essaie d'éviter tout discours d'appartenance ou d'authenticité, des choses comme ça. Et j'essaie de plus en plus de modifier les normes que j'utilise pour enseigner et pour évaluer mes étudiants et mes étudiantes. Ce que j'essaie surtout, c'est donner à voir les raisons, donc explicitement pour les étudiants, qui sous-tendent l'insécurité linguistique généralisée dont ils et elles souffrent. Et j'essaie de proposer des outils pour lutter contre ça, parce que il s'agit pour moi de démolir, donc surtout de démolir cette barrière qui est certes symbolique, mais quand même très très forte. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile. Car finalement, en fait, les dynamiques que j'ai évoquées ici vont bien au-delà des cas précis que j'ai mentionnés. Je dirais même peut-être que les dynamiques sociolinguistiques de l'enseignement-apprentissage de langues étrangères sont plutôt révélatrices, en fait, de dynamiques sociolinguistiques et donc sociales d'un territoire plus généralement. En France, j'imagine qu'il est possible ou probable qu'on retrouve les mêmes dynamiques dans l'enseignement, apprentissage, usage d'autres langues dites étrangères, pas que l'anglais, et très probablement, j'imagine, dans l'enseignement, apprentissage et usage du français aussi. Il y a sans doute des expériences dans la salle et je voudrais vraiment bien les entendre et partager par la suite. J'espère avoir montré que les dynamiques idéologiques que j'ai évoquées ici rationalisent des processus de discrimination, d'exclusion et d'insécurité qui sont parfois à très grande échelle. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver des solutions. Parce qu'en gros, il s'agit de lutter contre le pouvoir qui est en place. Et je pense que c'est peut-être une lutte qui est partagée avec certaines personnes qui sont dans cette salle et j'aimerais beaucoup laisser le temps pour en discuter par rapport à ça. Parce que pour moi, discuter de ces dynamiques-là, c'est le premier pas vers des possibilités pour trouver des solutions, s'il y en a, de proposer peut-être un autre regard. Car, et là je refais référence à Derrida à nouveau, ok, les langues n'appartiennent pas, mais si les langues appartenaient à des gens, elles sont pour moi quelque chose de commune, et l'anglais, c'est pas à moi, mais c'est à nous tous et toutes. Merci.